Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le secrétaire général de la CGT au matin de cette deuxième grande journée de mobilisation. Vous espérez le million ?
Au moins autant que le 19, voire plus, parce que tous les indicateurs montrent que, par exemple, sur les nombres de bus commandés pour aller aux différents lieux de manifestation, on est largement au-dessus du 19. Et puis, il y a 248 lieux de manifestation et je ne compte pas nos amis d'outre-mer. Donc je salue d'ailleurs les camarades de La Réunion et Mayotte qui doivent commencer à défiler là.
À l'heure qu'il est avec le décalage, Philippe Martinez, ça veut dire que selon vos estimations, vous serez plus à être mobilisé aujourd'hui que le 19.
Je vous dis que nous espérons être au moins autant, si ce n'est plus.
Et je rappelle que la journée du 19, c'était entre 1 et 2 millions, d'après vous 2 millions, d'après le ministère de l'Intérieur 1 million.
Exactement.
Et donc aujourd'hui, au moins autant, du côté des manifestants et du côté des grévistes.
Du côté des manifestants et du côté des grévistes. Que ce qu'on constate, c'est qu'il y a, évidemment, il y a les questions de pouvoir d'achat qui pèsent sur une partie des manifestants du 19 et une journée déjà de perdu en grève en niveau salaire, parce que c'est pas perdu au niveau intensité, ça pèse donc deux. Mais il y a des salariés, des retraités qui ont dit on a été surpris par ça a donné confiance le 19 et ceux qui n'étaient pas là le 19, beaucoup disent on sera là aujourd'hui.
Donc il y a quand même cette question de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que vous craignez peut-être que la grève ne se poursuive pas.
Non, je crains rien. Vous me posez une question.
Non, mais je vous dis
que quand on gagne le SMIC ou certains fonctionnaires, une heure de grève, vous le savez certainement, c'est une journée de salaire de perdu. Et les salaires sont tellement bas en France que oui, ça compte à la fin du mois. Mais je vous dis aussi que il y a cette journée du 19, il y a de l'enthousiasme et beaucoup nous ont dit on n'était pas là le 19, mais là il faut qu'on y soit parce que c'est important d'y être.
Quand on regarde déjà du côté des piquets de grève, notamment les grévistes CGT dans les raffineries, on parle de 75 à 100% de grévistes dans les raffineries de France. Vous confirmez ?
J'ai pas les chiffres, en tout cas les premiers, parce qu'ils marchent par quart, qui ont voté ce matin, oui, et il n'y a pas que la CGT d'ailleurs, c'est comme au niveau national, c'est les intersyndicales qui se réunissent et ce matin ça a démarré fort dans de nombreux secteurs.
Dans de nombreux secteurs, là je parlais à l'instant des raffineries,
oui,
vous avez
entendu.
D'autres secteurs en tête
Je sais pas, la RATP, la SNCF, dans des entreprises privées, y compris des entreprises privées de transport, parce qu'on parle beaucoup des entreprises publiques, mais y compris dans des entreprises privées, puis après dans la métallurgie, dans l'agroalimentaire, on va pas tous les citer.
Et est-ce que vous espérez justement que ça se poursuive? C'est-à-dire que vous parliez à l'instant de la question de la douloureuse aussi pour ceux qui travaillent, qui ont eu une journée de salaire en moins, qui en auront une deuxième aujourd'hui s'ils se mobilisent. Et la question du scénario diverge entre vous à la CGT, la CFDT qui est un peu plus présente dans le privé, qui dit qu'il faudra peut-être passer à des journées le samedi.
Non, mais il y a aucun problème dans l'intersyndicale.
Je disais pas qu'il y avait un problème, Philippe Martinez. Je disais simplement que vous aviez pas forcément la même stratégie.
Donc je vous réponds qu'il y a aucun problème, aucun problème entre nous. On fait aussi en fonction des salariés, que ce soit la CFDT ou d'autres ou la CGT. C'est les salariés qui décident. Et donc aujourd'hui ça ne suffit pas et je trouve que le gouvernement, le président de la République joue un peu les donneurs de leçons. Ils ont changé de, vous avez vu, ils changent de discours. On parle plus de réforme de justice sociale ou de progrès social. On dit ça ne changera pas. D'ailleurs, la première ministre a dit que les 64 ans, c'était plus négociable. Ça n'a jamais été négociable.
Ça n'a jamais été négociable.
Donc, on verra en fonction de la mobilisation d'aujourd'hui. On sent que ça marque, y compris parmi ceux qui vont être chargés de voter ou de ne pas voter la loi.
Alors, on va revenir sur la question de la mobilisation, mais je m'arrête un instant quand même sur ce que vous dites du bras de fer avec le gouvernement. Vous considérez que quand Elisabeth Borne dit ça n'est plus négociable, ce qu'elle a dit donc ce week-end, elle a dit les 64 ans, ça y est, les 64 ans et l'allongement de cotisation ne sont plus négociables, vous dites que ça ne l'a jamais été.
Vous avez bien entendu, ça ne l'a jamais été.
Donc en fait, quand elle dit on a discuté, on est passé de 65 à 64...
Ça ne l'a jamais été.
Il n'y a pas eu de dialogue.
C'était tout aussi courtois qu'avec vous, mais sur le fond, il y a toutes les propositions et on n'est pas les seuls à le dire.
Moi, je négocie pas avec vous, hein, donc la question de la question du pour soi ou pas n'est pas la même.
C'était une façon d'évoquer la façon dont on discute
vous
tous les deux.
Ce que vous voulez dire, c'est que vous parlez avec Elisabeth Borne et pour autant, vous ne vous entendez pas.
On a fait des propositions. Et il n'y a pas que nous. Enfin, vous avez reçu d'autres de mes collègues qui ont exactement la même analyse que nous.
Laurent Berger était ici même la semaine dernière.
Toutes les propositions ont été balayées d'un revers de la main. Ce qui prouve que cette réforme, elle est pas indispensable, contrairement à ce que dit le président de la République. Elle a contre elle une très grande majorité des Français. Je regardais, j'ai constaté que les soutiens de Monsieur Macron, c'était Elon Musk, un des hommes les plus riches.
Qui a tweeté pour dire son soutien hommes, à la réforme des retraites.
Un des hommes,
Elon Musk, le patron
un des hommes
de
les plus riches du monde et le Fonds monétaire international. Oui, en termes de milliardaires, ça fait beaucoup d'argent, mais en termes de population, c'est-à-dire ceux qui vont subir cette réforme, ça fait peu de soutien.
Vous disiez, Philippe Martinez, que Emmanuel Macron avait dit que c'était indispensable. Je préfère qu'on l'entende directement. C'était hier soir depuis les Pays-Bas. Écoutez.
Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
Donc elle dit que ce n'est pas négociable, les 64 ans, et lui, il dit que c'est indispensable. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'être de plus en plus fermes? On a l'impression que plus vous êtes nombreux dans la rue, ils sont clairs, nets et fermes sur leur réforme.
Je pense qu'au contraire, tous les arguments sur la justice, sur ça va être mieux, etc., la bataille idéologique, comme on dit, est perdue pour eux, et donc ils veulent montrer une forme de détermination. C'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'on y ait en face la même détermination dans la rue, dans les grèves, pour que enfin on puisse montrer que le peuple, puisque il doit rassembler, pas diviser, le président de la République. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Eh bien, soit écouté.
La bataille idéologique pour vous, elle est perdue
de
leur côté.
Pour eux,
voilà, elle est perdue. Ils l'ont perdue.
Est-ce que vous, quand vous invitez un ministre, il vous parle de justice sociale aujourd'hui? Il dit c'est indispensable. Et là aussi, nous avons fait la démonstration qu'avec
ils ont échoué sur l'argument de la justice. Pour vous, c'est là-dessus qu'ils ont perdu la bataille. En ayant dit que c'était une réforme juste, notamment pour les femmes.
Parce qu'on a expliqué, les syndicats ont expliqué point par point que ça allait creuser les inégalités, que tout le monde allait travailler plus longtemps. Et aujourd'hui, l'opinion publique, les sondages le montrent, c'est presque plus de 3 Français sur 4 et encore plus de Français.
74% des Français, au moment où on se parle, estiment que cette réforme, elle est injuste, et c'est un chiffre qui augmente.
C'est 90% chez les actifs, vous le savez.
Et c'est un chiffre qui augmente. Alors, on le voit bien, vous n'imaginez pas que ça puisse s'essouffler dans les cortèges à la fois parisiens et dans les villes moyennes, dans les petites villes. On l'a entendu d'ailleurs sur notre antenne sur RMC, mais sur BFM TV également. Toutes ces villes moyennes, ces préfectures, ces sous-préfectures qui sont très mobilisées.
Bien sûr, parce que cette réforme, elle va toucher tout le monde et partout. C'est pour ça que je vous disais, il y a 248 lieux de manifestation en métropole, dans des villes très très moyennes, des petites villes y compris.
Parce qu'au-delà de Toulouse, Marseille, Montpellier, vois la liste, il y a Grenoble, Nantes, Rennes, évidemment, ce sont des bastions historiques, mais il y a Guéret, il y a Troyes, il y a Épinal.
Il y a Landerneau, vous voyez.
Voilà,
par exemple.
Qui ont eu déjà le 19 des mobilisations historiques qui peuvent encore gonfler.
Bien sûr, je vous dis, il y a des citoyens qui ont été. Qui hésitaient, qui ont été surpris par le niveau de mobilisation, et le collectif donne confiance. C'est-à-dire, plus on voit de monde, plus on se dit, je suis pas tout seul à penser ça. Et c'est ça qui est important dans les mobilisations, c'est de retrouver le sens du collectif et la volonté de se battre ensemble.
Du collectif aussi avec ce front syndical qui reste uni, on va y revenir, mais sur les cortèges eux-mêmes, est-ce que vous craignez des débordements? On sait que le ministère de l'Intérieur a mobilisé 1000 policiers de plus que le 19. Le cortège, le parcours a changé, notamment pour la manifestation parisienne. Elle va passer non loin des ministères. Est-ce que c'est pas un peu mettre de l'huile sur le feu? Est-ce que vous ne redoutez pas des moments plus violents?
Ça s'est bien passé le 19, très très bien passé. Il faut gérer cette foule immense. C'est pour ça qu'il y a de nouveau un deuxième parcours pour éviter que les gens... Le délestage, on dit, et pour éviter que les ceux qui manifestent n'attendent pas 4 heures, 5 heures. Ça s'est très bien passé. Et ce qui compte, c'est que ces manifestations se passent bien, dans le calme, mais avec une détermination que vous avez vue dans les slogans et dans les mots d'ordre.
Vous êtes plutôt confiant, en tout cas sur la question de la sécurité.
Je suis toujours confiant, parce que ceux qui viennent manifester, ceux qui sont dans les cortèges, ils ont une seule idée en tête, c'est que cette réforme ne passe pas.
Sur le fond, les 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation, c'est non négociable, on l'a dit. C'est ce que dit Elisabeth Borne. On va empêcher par tous les bouts, voilà ce que dit LFI, notamment par la voix de François Ruffin, la bataille donc à l'Assemblée. Est-ce que vous vous dites qu'il y a encore des choses quand même qui peuvent bouger, ou est-ce que vous attendez du gouvernement qu'il retire dès aujourd'hui ou dans les jours qui viennent sa réforme?
Je pense qu'on est clair au niveau de l'intersyndicale. Les deux marqueurs qui doivent être retirés dans cette réforme, c'est l'allongement de l'âge de la retraite et l'allongement de la durée de cotisation. On est clair, on le dit depuis des mois et des mois, ensemble et séparément. Si la Première ministre n'a pas compris le message, aujourd'hui, on va lui redire plus haut, plus fort et plus nombreux. Après, il y a des propositions parce que...
Qu'est-ce qui serait acceptable s'ils acceptaient de négocier?
Non, mais l'emploi des seniors... Il faut en discuter. On a des exemples concrets d'entreprises qui licencient des gens à partir... Alors, senior, c'est toujours un peu vague, mais 58, 59 ans. Ça, c'est des cotisations jusqu'à l'âge légal. C'est des cotisations en plus et des chômeurs en moins. Voilà une mesure juste. Il faut, pour les femmes subissent tout au long de leur carrière une discrimination. Tout le monde le sait. Donc il faut régler ce problème, parce que plus il y a d'écart de salaire entre les femmes et les hommes durant la carrière, eh bien plus il y a cet écart, il grandit au moment de la retraite. Il faut prendre en compte les années d'études pour les étudiants, les jeunes, parce qu'on voit bien que quand on finit ses études à 25 ans, eh bien, si je sais bien compter, si on additionne 43, ça fait 68. Donc voilà des
Donc
mesures.
Donc vous pensez y compris à ceux qui sont rentrés sur le marché du travail tard. Mais Philippe Martinez, je reprends quand même point par point. Vous parlez de l'emploi des seniors, des femmes et des étudiants. Sur l'emploi des seniors, est-ce que quand vous dites on connaît des entreprises qui licencient autour de 55-58 ans, est-ce que ça veut dire que vous demandez au gouvernement d'interdire le licenciement des seniors sur une certaine période? Est-ce qu'il faut qu'à partir d'un certain âge, on ne puisse plus être licencié?
Évidemment. Sauf, c'est pour ça que nous demandons évidemment des mesures pour les travaux pénibles, pour les carrières longues. Donc ça, c'est plus des licenciements, c'est des départs en retraite anticipés. Mais pour d'autres, eh bien, nous proposons, puisque nous, vous le savez, nous proposons la retraite à 60 ans, eh bien, qu'on puisse aller jusqu'à l'âge légal. Ceux qui veulent rester plus longtemps, personne n'a jamais obligé quelqu'un à partir en retraite. Mais qu'il y ait un âge légal qui permette à ceux qui le souhaitent de partir à l'âge légal.
Donc interdiction du licenciement
et
des sanctions, seniors.
Et sanctions.
Et sanctions pour
les entreprises. Parce que ces entreprises-là ont touché beaucoup
l'index
d'argent.
L'index des seniors, ça ne vous suffit pas. Qui était évoqué au départ par la Première ministre. C'est-à-dire le côté, on va pointer du doigt les entreprises qui licencient.
Mais alors, on pointe du doigt les entreprises qui ne payent pas les femmes comme les hommes. Ça a changé quelque chose? Rien. Donc il faut des sanctions. Quand il y a une règle, c'est valable dans le sport, pour la conduite, etc. Ceux qui ne respectent pas la règle, eh ben, ils sont punis.
Donc interdiction et sanctions sur l'emploi des seniors.
Non, pas des sanctions. Sanctions si on licencie des seniors avant l'âge
légal. Et pour les femmes, vous invitez à ce qu'il y ait des sanctions également s'il n'y a pas une égalité de salaire entre les hommes et les femmes?
Il y a 8 ou 9 lois. Qui prône l'égalité, il y a toujours plus de 20%. Il faut, par exemple, regarder les questions des temps partiels imposés, ou ces journées hachées, je pense aux caissières, aux femmes qui font le ménage, etc., qui commencent très tôt le matin et qui sont obligées de revenir. Il faut travailler ces questions-là, parce que ça a un double effet. Il y a des carrières hachées, il y a du temps partiel, mais en même temps, il y a des...
Mais vous avez dit tout ça, Elisabeth Borne? Je veux dire, vous vous êtes vu à de nombreuses reprises, vous l'avez dit, c'était courtois.
On lui a
vous
dit.
Vous vous êtes dit ça, vous lui avez dit sur l'emploi des seniors, vous lui avez dit sur les femmes.
On lui a dit, mais avec des exemples très concrets.
Et quelle a été la réponse?
Elle regarde ses ministres, elle dit, faut qu'on regarde ça. Hein. c'est tout, point. Ce qu'il faut, c'est pas de la théorie, ça. Nous, on parle d'exemples concrets, des choses vécues que nous disent les salariés ou qu'on vit dans nos entreprises. Il y a une forme de dans le gouvernement de nier les réalités. C'est là où il y a un problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les deux pieds sur terre. Ça, c'est un problème.
Sur quoi vous avez été entendu finalement?
Sur certains petits boulots, comme on les appelait, les TUC par exemple. Ça fait des années qu'on réclame que ça soit pris en compte. Ça a été pris en compte, mais il y a tous les stages, les alternants, etc., qui doivent aussi être pris en compte, parce que dès qu'on travaille, ça doit compter pour la retraite et en termes de trimestres validés et cotisés pour ceux qui donc voilà.
Vous parliez d'études, les travaux d'utilité collective. Voilà, vous parliez à l'instant également des étudiants. Est-ce que ça veut dire que dès la première année à l'université, par exemple, on devrait considérer que ça vaut pour des trimestres?
Eh ben pourquoi pas. En tout cas, faut en discuter.
Même si on n'est pas payé.
Mais vous savez, il y a la question des trimestres validés. Et les trimestres cotisés. Et trimestres validés, c'est pour pouvoir partir avant 68 ou 69 ans. Après, il y a les trimestres cotisés. Et les trimestres cotisés, c'est autre chose. Mais on doit travailler.
Donc
sinon...
Donc ça devrait être des trimestres sinon, validés comme le fait d'avoir des enfants, par exemple.
Mais, c'est-à-dire mais ceux qui ont... Les plus vieux qui ont fait leur service militaire, ils ont des trimestres validés. Et ils n'étaient pas payés, ils n'ont pas cotisé. Mais ils ont eu des trimestres. Pourquoi on ne fait pas ça pour les étudiants?
Sinon,
ils vont partir à 68, 70 ans.
Et si Elisabeth Borne se rasseyait à la table avec vous et vous écoutez à nouveau sur ces points-là et vous disait, bon, je garde les 64 ans, mais tiens, on va valider davantage de trimestres, on va valider pour la pénibilité. Est-ce que serait envisageable?
Je vous le redis, 64 ans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que même ceux et surtout celles qui vont partir avant 64 ans, elles vont travailler plus longtemps. Quand vous avez des métiers pénibles, ce n'est pas possible de continuer. Enfin, vous avez eu plein de témoignages.
Oui, ce matin,
encore
sur
ce matin, je vous écoutais.
Témoignages, y compris de Boucher qui disait « je n'ai jamais manifesté
je pense
pour la première fois
aux ouvrières du textile ». Enfin, ce n'est pas possible. Enfin, il ne faut pas connaître le travail pour pouvoir penser.
Ils ne connaissent pas le travail.
La preuve. Je sais pas, ils ont qu'à aller traverser un atelier du textile ou aller dans un abattoir ou dans l'industrie agroalimentaire. Ils verront ce que c'est que les conditions de travail.
La question, elle s'est déplacée aussi presque philosophiquement sur le rapport au travail. Est-ce que vous êtes plutôt travail qui émancipe ou travail qui aliène, Philippe Martinez?
Le travail doit émanciper. C'est un lieu d'émancipation à condition que les conditions de travail soient bonnes, qu'on passe pas 60 heures au boulot par semaine. Et qu'on recrée du lien, du collectif. C'est important d'avoir des collègues, de pouvoir discuter, demander à ceux qui sont privés d'emploi dans quelle solitude et quelle détresse ils sont. Le chômage, ça abîme, ça use la santé, ça provoque des maladies. Oui, c'est important.
Donc quand on oppose travail et paresse, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, vous vous dites non, je suis clairement du côté du travail. C'est pas parce que je suis contre cette réforme
mais ça n'a
que je suis du côté de la paresse.
Ça n'a rien à voir, sauf que vous savez que nous, on propose de travailler moins. Voilà, 32 heures par semaine. Parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie, comme on dit.
Enfin, à un moment, il faut payer quand même. On ne peut pas travailler jusqu'à 60 ans, 32 heures.
Mais il y a un peu d'argent dans ce pays,
non?
Alors,
entre vous.
Il y a un peu d'argent.
Entre vous. Plus dans la répartition, dans ces cas-là, simplement.
Mais
un choix.
Mais pas du tout. Il y a eu des politiques d'exonération de cotisations, notamment des grands employeurs. Peut-être qu'il y a sûrement à creuser de ce point de vue-là. Il faut augmenter les salaires. Il y a plein de possibilités de récupérer des cotisations, parce que oui, on est attaché aux cotisations.
Donc, votre fonctionnement, ça n'est pas comme la France Insoumise qui, par exemple, estime aussi qu'on peut aller chercher dans d'autres taxes pour vous, réforme. S'il y avait une réforme made in CGT, ce serait d'aller chercher quand même du côté du travail.
Je vous l'enverrai, la réforme made in CGT, elle est prête. Il y a aller chercher de l'argent aussi ailleurs. Mais ça, pour la fiscalité, pour construire des écoles, là, il faut aller chercher, il faut taxer les super profits. Mais ça, c'est de la fiscalité. Par contre, il y a certainement à travailler des cotisations sur des flux financiers, par exemple, parce que le travail est beaucoup taxé. Ceux qui contournent le travail, peut-être qu'il y a à chercher de ce point de vue-là. On a plein de propositions.
Philippe Martinez, est-ce que vous pouvez nous garantir ce matin qu'il n'y aura pas de coupure de courant aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y aura des baisses d'activité, donc des chutes de production d'énergie.
Mais ça, c'est dû au fait qu'il y aura moins de salariés en présence, puisqu'ils seront grévistes. Mais il n'y aura pas de coupure volontaire.
J'en sais rien. C'est en tout cas moi ce que j'apprécie et on en avait parlé la dernière fois que je suis venu, c'est que on fasse des opérations Robin des Bois, c'est-à-dire qu'on donne à ceux qui sont...
Comme le fait la CGT dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, l'idée de mettre sur heure creuse, notamment les boulangers, c'est-à-dire de les faire moins payer.
Non, c'est sûr. D'abord ceux qui sont en précarité énergétique, et ce sont des millions. Mais aussi, il y a des baisses de facturation pour les écoles, pour les hôpitaux. Vous voyez, c'est de la justice, ça.
La suite?
Eh ben, vous le saurez ce soir.
Vous allez décider ensemble, mais il y aura une suite.
Si le gouvernement ne change pas... Ce soir, il y aura des suites.
Certains, chez vous, considèrent même qu'il faudrait une grève qui se poursuive, une grève, mais, comme on appelle, généralisée.
Mais ça se discute en ce moment dans les assemblées générales, parce que on ne peut pas décider tout seul des modalités d'action. Mais si le gouvernement n'écoute pas, et je trouve que le ton employé par la Première ministre et par le Président de la République, même quelques-uns de ces ministres sont plutôt dans la provocation, ça ne risque pas de calmer le jeu, comme on dit.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et qui s'attend donc à ce qu'il y ait au moins autant de mobilisation que le 19. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.